Bonjour et bienvenue dans l'émission Santé Naturelle. Je suis Marina, conseillère en allaitement et je vais vous parler d'allaitement maternel.
Je suis Claire, naturopathe et réflexologue. Je vais vous parler d'astuces du quotidien pour se sentir bien.
Bonjour et bienvenue dans la chronique Allaitement tout simplement. Alors, comme son titre l'indique, on va parler d'allaitement aujourd'hui. Je suis Marina de chez Lactessence et cette chronique est la vôtre. C'est-à-dire que je vais tenter de répondre à vos questions. Donc, je vous invite à me contacter sur lactessence@gmail.com, LACTE2SENCE, et de me poser toutes les questions relatives à l'allaitement. Alors aujourd'hui, c'est Ludivine qui est maman de 2 enfants et actuellement enceinte du 3e et qui me dit: bonjour Marina, je n'ai pas allaité mon premier enfant car j'étais jeune, je n'avais pas envie. Et le 2e, j'ai essayé, mais j'ai eu très peur qu'il ne boive pas assez de lait. Du coup, j'ai vite donné un biberon, comme ça je savais ce qu'il buvait. Et j'aimerais essayer pour le 3e, croyez-vous que c'est possible ? Alors oui, bien sûr, déjà c'est génial de vouloir continuer d'essayer d'allaiter le 3e, évidemment, que ce soit le 1er, le 2e, le 3e, le 4e, le 7e, il est toujours possible d'allaiter même si on n'a pas allaité précédemment. D'ailleurs, la nature est assez bien faite, si l'humanité a survécu jusqu'ici, c'est qu'il y avait assez de lait pour nourrir les enfants. Mais on comprendra qu'il devient assez difficile et stressant d'allaiter son bébé à partir du moment où il y a des protocoles et certaines injonctions justement qui sont souvent dues à la prise de poids. Alors en connaissant la physiologie du bébé, en sachant repérer les signes cliniques pour être sûr qu'il boive assez pour aussi surtout se rassurer, ça devient beaucoup plus aisé d'allaiter son bébé. On parlait de prise de poids. Et il faut savoir, je vais partir du principe, Ludivine, que tu vas accoucher dans une maternité. Dans ce cas, on a un accouchement souvent qui peut être médicalisé. Donc, on va avoir souvent des analgésiques, on peut avoir de l'ocytocine de synthèse. Enfin, tous des produits qui vont en fait fausser le poids de départ du bébé. Mais ça, on ne le sait pas forcément. Donc, ce bébé, il va naître avec une rétention d'eau. C'est-à-dire qu'on va le peser à la naissance, mais si on le pesait 1 heure ou 2 heures après, on aurait déjà une perte de poids puisqu'on aurait une perte d'eau. Donc, on serait déjà beaucoup plus enclin à être rassuré sur le transfert de lait si on avait un bon poids de départ. Donc, c'est important de le savoir. Dans un deuxième temps, il faut savoir aussi que le bébé peut prendre jusqu'à 15 jours, voire parfois plus, pour reprendre son poids de naissance. C'est-à-dire qu'on a une pression qui est assez conséquente dans le milieu hospitalier. Mais tout ça tient à des protocoles qui eux-mêmes ont des raisons d'exister. Mais lorsqu'un allaitement se passe bien, dans tous les cas, il est normal d'avoir un bébé qui prend son temps à reprendre son poids de naissance. Pourquoi ? Le bébé va naître avec toutes ses réserves de graisse, donc les calories nécessaires, et tout le liquide qu'il lui faut pour attendre la montée de lait. Il faut savoir que le premier lait, ce colostrum, donc qui a cet aspect un peu jaunâtre ou orangé, va avoir plutôt une action dite trophique. C'est-à-dire qu'il va servir vraiment au système immunitaire. Il va être fort en protéines et il va permettre de coloniser tout le métabolisme du bébé, notamment ce qu'on appelle le tractus gastro-intestinal, donc son système digestif, son métabolisme en général, de bonnes bactéries et de facteurs immunitaires. Il est là pour partir avec du bon pied, d'un point de vue métabolique. Et puis, il va avoir donc toutes ses réserves pour lui permettre de téter et de faire monter le lait. C'est-à-dire que le lait va se transformer. On va avoir un lait de transition entre le colostrum et la montée de lait. Et puis, la montée de lait va se faire. Donc, sur ce laps de temps, le bébé a vraiment toutes ses calories, tout ce qu'il lui faut pour avoir un lait qui va être plus riche en gras, notamment en lipides, et qui va lui permettre de prendre du poids. Donc l'essentiel, j'ai envie de dire, c'est d'avoir vraiment la confiance en cette lactation. Si on comprend un petit peu comment marche la lactation, il est beaucoup plus aisé d'avoir confiance en son duo d'allaitement. Mais en attendant, on va se demander, mais comment on sait que le bébé tète assez ? Eh bien, tout simplement, on en revient au signe clinique, c'est-à-dire que il va y avoir en effet le repère de prise de poids. Encore une fois, je le répète, le bébé n'est pas obligé de reprendre son poids de naissance très rapidement. Mais c'est toujours mieux s'il y a le temps de la montée de lait, donc il y a souvent une petite perte de poids qui peut être associée à hauteur de 5-10% et parfois même au-delà. L'essentiel, c'est que quand la montée de lait se fait, et ce bébé va remonter progressivement sa courbe, d'une part. D'autre part, on va regarder ses urines et ses selles. C'est-à-dire que le premier jour, le bébé va faire un premier pipi. Le deuxième jour, deux pipis. Le troisième jour, trois pipis. 4, 5, jusqu'à 5 pipis. Et ensuite, on va quantifier les couches du bébé. Mais le tout n'est pas encore de se stresser, mais de se dire que si les couches sont mouillées en nombre, on arrive ensuite à un nombre de entre 4, 5, 6 couches bien mouillées, avec une selle par jour au moins, on a un bébé qui a un bon transfert de lait. Alors, au début, en parlant des selles, on va être plutôt sur du méconium. C'est-à-dire que le bébé va avoir des selles assez noires, pâteuses, parce qu'il ne faisait pas de selles dans ton ventre, tout simplement. Et du coup, il va évacuer donc ces déchets. Et progressivement, ces selles noires vont se transformer en selles jaunes or. Et le temps de la montée de lait, eh bien, on a cette transition qui se fait. Donc, généralement, avec la montée de lait, eh bien, les selles commencent à changer. Alors, parlons de cette montée de lait qui peut être très stressante. On entend souvent qu'au bout de 3 jours, il faut déjà qu'on ait un lait dit mature. Alors, il faut savoir qu'en fonction du mode d'accouchement, qu'il s'agisse de la voie basse, qu'il s'agisse de la césarienne, en fonction des analgésiques, etc., en fonction de plusieurs critères, il peut y avoir une montée de lait qui va être considérée comme retardée. Mais pour autant, elle reste dans la norme. Une montée de lait qui arrive à 6 jours, plus 150 heures, on reste sur une montée de lait qui est correcte. Donc déjà, quand on connaît un petit peu ça, c'est vrai qu'on a tendance à se rassurer, encore une fois, sur ce transfert de lait. Maintenant qu'on est rassuré sur des choses qu'on peut quantifier, on va souvent s'attarder sur le comportement du bébé. Alors, on a tendance à associer le rythme d'un bébé au sein, un bébé qui demande fréquemment, avec une certaine agitation, à un manque de lait. L'inquiétude est souvent faite à ce niveau-là, sauf que on reprend au niveau de la physiologie du bébé. Qu'est-ce qui se passe? Ce bébé, il était dans ton ventre. Il entendait les sons, les voix qu'il avait l'habitude d'entendre. Tout était filtré dans ses liquides. Dans son liquide amniotique, il était plutôt bien, à l'aise. Voilà, c'était un petit cocon douillet. Il entendait les bruits de ton cœur. Il était bercé selon ton rythme quotidien. Et là, d'un coup, il arrive, mais c'est un choc, il est au monde. Il y a des lumières, il y a des voix qu'il n'a jamais entendues, on le manipule, c'est quelque chose qui peut être assez déroutant. Et donc ce bébé, souvent lorsqu'il naît, il peut être un petit peu fou, il faut qu'il émerge un petit peu de tout ça, d'accord? Donc ce bébé va être un petit peu endormi et il va avoir la prise de temps de la connaissance de ce nouveau monde qui est devant lui. C'est là toute l'importance d'avoir un bébé près de toi. C'est-à-dire que plus tu le gardes à portée de bras, et plus il sera aisé de mettre en place l'allaitement et de lui permettre aussi de se rassurer. On va rentrer dans ce qu'on nomme d'ailleurs le 4e trimestre de grossesse. Ingrid Bayot, qui est une sage-femme, conférencière et formatrice très reconnue dans le monde de l'allaitement, aime à parler du 4e trimestre de grossesse et de cette dégestation. Donc on va lui laisser le temps à ce bébé de faire connaissance, on va lui laisser le temps de faire connaissance avec le sein, de téter. Alors attention, en plus un bébé peut téter très bien de façon endormie, il tète même mieux lorsqu'il est endormi ou semi-endormi près du sein de sa maman. Donc l'idéal, c'est vraiment lorsque ce bébé naît, que vous puissiez prendre le temps de faire cette connaissance. Installez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise, prenez votre bébé, mettez-lui la tête près de votre sein, la joue contre le sein et laissez-le venir à sa guise. Parce qu'il va prendre le temps d'émerger. Et puis ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Le lait va commencer à arriver. Alors le lait va arriver, le bébé va être un petit peu frénétique, va être un petit peu agité. Parce que naturellement, c'est un mammifère. Le petit humain est un mammifère qui sait comment survivre. Et pour survivre, il faut téter. Donc, ses compétences, il les a depuis in utero. Depuis 24 semaines, il tète le liquide amniotique. Depuis 12 à 13 semaines in utero, il avale déjà le liquide amniotique. Donc, il a des compétences. Mais là, il faut qu'il continue à les acquérir et à s'entraîner avec le sein. Donc, lui, il va s'agiter parce que c'est un petit peu énervant. C'est une nouvelle façon de fonctionner. On tète un sein, on l'a pas forcément tout le temps, même si on est proche de lui. Il faut quand même régler un petit peu nos petites horloges communes. Et c'est ce qui va se passer. Le bébé va donc tétée de manière frénétique, et là il ne faut pas s'inquiéter. Parce qu'en fait cette agitation est normale et tout à fait naturelle. En plus il va sentir le lait arriver, donc c'est comme un marathonien qui arrive près de la piste d'arrivée, tout ce qu'il a envie c'est de continuer à courir pour arriver et finir cette course. Eh bien lui c'est exactement ce qu'il va faire, il va téter de façon un petit peu agitée, un peu inconstante, un peu anarchique, mais c'est tout à fait naturel, c'est sa propre physiologie. Donc si on est au courant de tout ça, eh bien il devient plus aisé de se faire confiance, parce que la clé d'un allaitement réussi, de sa mise en place, c'est bien la confiance en soi et en son bébé. Il y a absolument très très peu de femmes qui ne peuvent pas allaiter, et là on parle de causes pathologiques. C'est-à-dire que souvent, les arrêts précoces de l'allaitement viennent d'un manque de confiance, alors dû soit à l'installation de certains protocoles qui peuvent être un petit peu stressants, ou soit à sa propre histoire. Donc du coup, c'est important que vous puissiez vous dire « j'ai du lait ». Tout va bien se passer. Mon bébé est un peu agité, mais ça va se calmer. Mon bébé vit des acquisitions exponentielles. N'oublions pas que ce bébé est un petit être humain, un mammifère, et que parmi tous les mammifères, il naît de façon la moins aboutie. Il n'y voit pas grand-chose, il n'entend pas grand-chose, il a encore plein d'acquisitions à faire. Donc la meilleure place pour ce bébé, en termes de survie déjà, c'est d'être dans les bras de sa maman. Parce qu'il va avoir cette distance, il va vous voir, il va voir le sein, il va le sentir, il va être rassuré par ces battements de cœur qu'il a l'habitude d'entendre. Et sa meilleure place va être auprès de vous. Donc, pour avoir un allaitement réussi, une mise en place d'allaitement réussi, eh bien le mieux, ça va être de garder un bébé près de soi, de lui offrir le sein sans restriction de temps, sans écart de tétée, et de ne pas s'inquiéter, car si vous suivez son rythme biologique, eh bien cette mise en place se fera naturellement. Alors, évidemment, on peut avoir un petit peu de stress à la maternité. Donc, l'essentiel, c'est que quand vous rentrez de la maternité, eh bien, vous vous retrouvez dans un environnement qui est sain, qui est serein, qui est le vôtre. Et là, Ludivine, toi, tu vas être parfaitement bien. Tu vas être parfaitement détendue. Et une maman qui est détendue, c'est une maman qui délivre de l'ocytocine et qui permet l'éjection du lait. Voilà, cette chronique est terminée pour aujourd'hui. Je laisse la parole à Claire Lafond, notre naturopathe.
Bonjour à tous, c'est Claire Lafond, naturopathe et réflexologue. Et je viens vous parler aujourd'hui de la chrononutrition, ou l'alimentation fondée sur le principe de l'horloge biologique. En effet, notre corps dispose d'une horloge interne qui va permettre de réguler toutes les fonctions physiologiques et répondre ainsi au mieux à nos besoins. Nous allons de façon cyclique avoir sommeil ou avoir faim, par exemple. Tout un tas de paramètres comme la température corporelle, la vigilance ou encore la sécrétion d'hormones vont ainsi varier tout au long de la journée. Les stimuli extérieurs vont synchroniser cette horloge interne, et principalement la lumière qui va au sens propre remettre les pendules à l'heure chaque jour. Et notre alimentation dans tout ça? Eh bien oui. Connaître l'alimentation la plus adaptée à nos besoins, en fonction des moments de la journée, fait partie des choses importantes pour se sentir en forme et éviter les coups de pompe classiques après les repas. Je vais donc présenter de façon succincte la répartition des aliments qui suit au plus près notre chronobiologie, pour le repas du matin, du midi, la pause goûter et le repas du soir. Il s'agit ici d'une information générale qui ne remplace en rien des préconisations médicales et qui ne répond pas aux spécificités de pathologies telles que le diabète ou l'hypertension artérielle par exemple. Tout d'abord le matin. Le matin au sens large, car certains n'auront pas du tout faim au lever du lit, mais plutôt vers 10 heures par exemple. Donc ça, c'est en fonction de chacun et de son organisation personnelle. Au réveil, notre organisme sort d'un jeûne de 10 heures en moyenne et va devoir assurer les activités du matin. Donc c'est le moment idéal pour consommer du bon gras, associé ou non à des glucides à index glycémique bas. En effet, les lipides, comparativement au sucre, vont apporter plus d'énergie à un nombre de calories équivalent. De plus, ils vont éviter un pic de glycémie qui engendre un coup de pompe dans l'heure qui suit. Pas franchement agréable dans la matinée. Concrètement, ça donne des tartines de pain complet ou demi-complet, avec du beurre pour la version la plus digeste, des flocons d'avoine sans sucre avec quelques oléagineux type noisette ou amande ou noix, et un fruit de saison pour assurer un bon transit. Ou encore, si on aime le salé, un peu de fromage et quelques protéines comme des œufs brouillés par exemple feront parfaitement l'affaire. À éviter le plus possible les sources de sucre simple type jus de fruits, compote, confiture ou céréales sucrées. La montée rapide de sucre dans le sang, ça affole un petit peu l'organisme. Pour le repas de midi, il faudrait idéalement manger dense, c'est-à-dire riche en nutriments, qui vont apporter au corps tout le nécessaire pour son travail de réparation ou de construction des zones qui en ont besoin. Quelques crudités en entrée, riches en antioxydants, puis une association de légumes et de protéines pour le plat. Les protéines peuvent être d'origine animale, pensez notamment aux petits poissons type maquereau ou sardines, ou encore à la viande blanche. Les protéines d'origine végétale sont particulièrement présentes dans les légumineuses, c'est-à-dire la famille des haricots, rouges ou blancs, des pois, petits pois ou encore pois chiches, et enfin la famille des lentilles. La quinoa, classée comme pseudo-céréale, est également riche en protéines. L'idée est de varier les sources de protéines au cours de la semaine tout en se faisant plaisir. Il est important de finir notre repas de midi par une note sucrée, car notre cerveau consomme beaucoup de sucre et son absorption en fin de repas sera ralentie. Il n'y aura pas d'augmentation brusque de la glycémie. Donc là, on se fait plaisir. On prend ce qu'on aime. Les desserts maison restent les plus intéressants nutritivement parlant, mais là, c'est selon chacun. Dans l'après-midi, une petite pause est bénéfique pour recharger un peu les batteries, surtout quand on enchaîne la journée de travail par la deuxième journée, à savoir celle à la maison. Une poignée d'amandes, quelques carreaux de chocolat, un fruit frais de saison, histoire de donner de l'énergie au corps pour faire face jusqu'au repas du soir. Justement, parlons-en du repas du soir. Le dîner, chronobiologiquement adapté, sera léger, c'est-à-dire très peu de matière grasse et pas de sucre rapide. Il faut faciliter le travail digestif avec des légumes cuits, associés à des féculents par exemple. Les crudités ou les protéines fortes comme la viande sollicitent plus les enzymes digestives qui peuvent être moins efficaces en fin de journée. Un petit résumé de tout ça, ça donne des lipides, du bon gras le matin, de la densité à midi, du sucré au goûter et de la légèreté le soir. Sans oublier d'être à l'écoute de la sensation de satiété. Les excès alimentaires sont à l'origine de sensations désagréables comme des migraines, des lourdeurs digestives ou de la fatigue. Un autre point primordial est une bonne mastication, car notre digestion commence dans la bouche. Mâcher les aliments avant de déglutir assure une meilleure absorption des nutriments plus bas dans le tube digestif. Et ainsi, vous saurez mieux identifier la satiété. Surtout, faites-vous plaisir. Se nourrir doit rester un moment de satisfaction et non de frustration. Nos émotions ont d'ailleurs souvent un impact sur notre façon de s'alimenter. Mais l'inverse est vrai également. apporter ce que notre corps a besoin, respecter ses limites, régule nos émotions positivement. La prochaine chronique, nous ferons le lien plus spécifiquement entre digestion et émotion, ou comment notre organisme synthétise des hormones qui nous permettent de nous sentir bien. À bientôt sur RDB.
Merci d'avoir écouté l'émission Santé naturelle. Retrouvez l'intégralité de cette émission sur le site de RDB, www.rdbfm.com, sous la rubrique Podcast.